Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te onorerò.
Eccolo, Giuseppe Mislicece.
Mislicece.
È un musicista molto dotato.
Questa vostra musica è talmente bella.
Mio padre non voleva che diventassi un musicista.
Quindi avete un fratello?
Un gemello. Talvolta è meglio commettere piccoli errori, ma lasciar parlare i sentimenti.
Stai attento però, non giocare con il fuoco.
Non mi abbandonare. Amatemi.
Il Bohémo de Petr Vaclav était proposé dans la compétition européenne lors de la 23e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence qui s'est déroulée à Arras du 4 au 13 novembre. Ce film revient sur le parcours d'un compositeur tchèque, Josef Myslivecek, parti de rien pour être enfin reconnu du grand public dans une Italie du XVIIIe siècle, avide d'opéra et de grandiloquence. Il Bohémo a finalement remporté dans cette compétition le prix de la critique, le syndicat français de la critique de cinéma, plus communément appelé jury de la presse. Entretien avec le réalisateur autour de ce film pour en savoir plus sur le compositeur méconnu du grand public qui a influencé Mozart. On évoquera également avec lui l'époque, quelques clés pour comprendre le contexte historique et on commence par la genèse de ce long métrage tourné pendant l'épidémie de Covid-19. Interview agrémentée par des extraits de la bande-annonce. Alors, Petr, bonjour.
Bonjour.
Donc, on est là ici pour parler de votre film, Il Bohémo, qui est en lice pour la compétition européenne. On s'était déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment pour Zanetta, Sestaven, et puis pour We Are Never Alone. Et ce film avait été proposé aussi pour une bourse, aux Arras Days, si je me souviens bien.
Il a été présenté, mais il n'a rien eu.
Il Bohémo, donc, un film, évidemment... Alors, la première question que j'ai envie de te poser, avec les années de Covid, etc., et puis c'est un film quand même qui a un gros budget, est-ce que ça a été compliqué de le terminer, ce film, financièrement, mais aussi psychologiquement, puisque avec ces années de Covid, ça ne devait pas être évident?
Financièrement, c'était plutôt difficile de le démarrer, parce que c'est un film qui a coûté un peu plus de 5 millions, mais ce qui est relativement beaucoup d'argent... En même temps, c'est très peu pour ce que je voulais faire, pour l'ambition du film. Donc, oui, tout a été toujours, même le scénario, en fait, il était vraiment lié avec le budget et tout évoluait au fur et à mesure des possibles et des impossibles. Et voilà, donc c'était pas Apocalypse Now, mais c'était à notre échelle, c'était une aventure pleine de désarroi, plein des moments où le tournage était arrêté, où on n'espérait plus de pouvoir faire le film. Donc c'était vraiment assez grandiose, assez homérique. Après tout, nous avons fini le film avec le Covid, tout ça. La difficulté de mon film, c'est que donc Joseph, le personnage principal, le compositeur de musique qui a réellement existé, Josef Myslivecek, qui est né à Prague et mort à Rome, qui était le compositeur le plus en fait employé dans les années 70 du 18e siècle. C'est un homme qui voyageait tout le temps dans l'Italie. Il pouvait donner un opéra à Turin et même pas un mois plus tard à Venise, puis rentrer à Naples, donner un autre opéra à Parme ou Florence. Donc c'est un homme qui avait une vie de voyageur, de vagabond en quelque sorte, et qui avait aussi les amitiés très discontinues. Donc dans mon film, il y a beaucoup de personnages, et la difficulté consiste dans le fait que vous n'avez pas beaucoup de temps de travail avec un acteur. Il arrive, il doit rendre dans des délais assez extrêmes, parce qu'en tout, je pense qu'on avait 37 jours de tournage. Donc il doit donner de son meilleur et partir. Donc vous devez assez bien préparé en avance, ce qui était compliqué parce qu'on n'avait pas le droit de faire des répétitions à cause du Covid. Les répétitions étaient vraiment réduites à très peu. Donc, je travaillais beaucoup par WhatsApp, en téléphone. Je parlais beaucoup aux comédiens pour qu'ils comprennent ou pour qu'elles comprennent leur rôle avant de venir sur le plateau. Je faisais aussi même des enregistrements WhatsApp avec certains en disant non, dis-le un peu d'une manière plus vraie, plus moins théâtrale, etc. Donc ça aussi, WhatsApp, ça s'est devenu un instrument assez incroyable de travail de par nos séparations qui nous étaient imposées par le Covid. Et ensuite, on ne savait jamais si la personne allait vraiment atterrir hein, là où on filmait parce que elle pouvait tester le au petit matin et voilà. Donc, mais heureusement, et ça c'était vraiment un grand coup de chance, on a pu tourner plus ou moins normalement. Personne n'a jamais été vraiment malade, à part une actrice où j'ai dû prendre une doublure parce que c'était des scènes de théâtre où je ne pouvais pas arrêter. Voilà, toute cette. On a déjà investi les théâtres, etc. Donc on pouvait à la dernière minute, on en a pris quelqu'un d'autre. La personne, je l'ai pas vraiment tournée, je l'ai mis un peu au loin pour ne pas voir que c'est pas la personne qu'on verra plus tard dans le film. Ensuite, mais il fallait ruser un peu parce que on pouvait pas s'arrêter à cause de ça.
Alors, ce compositeur, justement, on va en parler parce que c'est le sujet central du film. Ce compositeur qui, c'est un peu votre marque de fabrique aussi pour tous vos films. Hein, c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui fait de grandes choses. Il était meunier au départ et il se retrouve être l'un des plus grands compositeurs en vogue dans le XVIIIe siècle.
Oui, c'est l'histoire qui suit en fait le désir de quelqu'un qui donc au départ, mais ça, le film commence au moment où il est déjà en Italie, où il essaye de percer, où il est encore jeune, mais il se retrouve dans une société dont il n'a pas forcément les codes, il connaît pas beaucoup de monde et il essaye de percer. C'est un homme qui au départ était minotier, enfin il faut pas non plus se le présenter comme un homme qui un ouvrier en fait tout couvert de farine. C'était quand même à l'époque une profession de bourgeois assez important. Il avait aussi le droit d'être le juge des litiges correspondant à des problèmes d'eau, de rivière, etc. Il ne voulait pas exercer ce métier pendant longtemps. Apparemment, il avait peur de dire non à sa famille et de devenir musicien, parce qu'à l'époque, être musicien, c'était pas forcément bien vu. Mais à un moment donné, il a dû comprendre qu'il n'avait plus le choix, qu'il devait vraiment aller suivre son désir. Et il est parti de Prague, pratiquement sans dire au revoir, sans passeport. Et le film le suit à partir du moment où il essaye de faire son trou en Italie, et il va y arriver, et il est vraiment devenu le compositeur très reconnu, le plus employé peut-être en Italie de son temps. Il a influencé Mozart, ils se sont connus en Bologne en 1770. Léopold Mozart s'est beaucoup intéressé à lui parce qu'il voulait comprendre comment un compatriote en fait transalpin venant du même pays a pu réussir à obtenir toutes ses commandes. Wolfgang certainement s'intéressait plus, moins à la politique ou à la diplomatie, enfin culturelle, mais surtout il s'intéressait à sa musique. Il décrivait qu'il était intéressé de ça. Il s'intéressait à savoir comment un compatriote comme lui arrive à plaire aux oreilles des Italiens. Ce qui est intéressant, c'est que Mozart, en fait, il voulait avoir cette vie de Myslivecek. Il avait l'ambition d'avoir les contrats similaires et vivre cette vie. Je pense que non seulement pour être compositeur d'opéra italien, mais aussi il devait en fait adorer la liberté de Myslivecek, parce que c'est un homme qui c'est un peu un romantique avant l'heure, un précurseur de cette vie qui vraiment cherchait à être libre, à ne pas être attaché à une cour, de ne pas être attaché à un maître, et qui vraiment réussit ça. Et Mozart, qui n'a pas du tout été apprécié à sa hauteur à l'époque, n'a jamais réussi à avoir cette même carrière. même si Mislivecek il a essayé de l'aider, de lui faciliter une commande pour San Carlo, mais il était déjà à l'époque syphilitique, il était malade, les gens ne voulaient plus trop le fréquenter, donc il a perdu de sa superbe et il ne pouvait plus imposer Mozart. Donc vous voyez que les vies des artistes sont très compliquées, et quand ils se voient à Bologne pour la première fois, Mozart et Mislivecek. Mislivecek a 33 ans, il écrit son 8e opéra italien. Mozart a 13 ans, il signe pour son premier opéra italien pour Milan, Mitridate. Et là, il est influencé par Mislivecek parce qu'il va en fait développer l'ouverture pour Nitati de Mislivecek et il va en faire son ouverture pour Mitridate. Et cette année-là est né Beethoven. Et Beethoven qui n'enlèvera plus le chapeau devant l'empereur en disant « Les empereurs, il y en a à l'appel, mais moi je suis Beethoven. » Et il aura déjà cette vie de musicien romantique, de musicien qui s'impose aussi comme personnage privé, devient un vrai personnage public, alors que Mislivecek et Mozart, c'est encore des hommes qui sont en fait subordonnés aux ordres sociaux de leur époque, et ils restent quand même des serviteurs des puissants, même si ils écrivent aussi ils écrivent comme on écrit à l'époque. C'est pas des révolutionnaires, c'est pas des grands inventeurs, mais c'est des très grands musiciens qui arrivent vraiment à traduire dans leur opéra surtout des passions incroyables. Mislivecek, il était très très bon en recitativo accompagnato aussi, où il a vraiment su exprimer tous les dilemmes des personnages, toutes leurs passions, toute leur tristesse et joie. Et je pense que Mozart, il admirait ça parce que aussi c'était un grand dramaturge, lui. En tant que comme Mislivecek, il tendait vers cette liberté. Il était à la recherche d'un mode de vie plus libre, qui ne correspondait pas forcément encore à son époque. Et puis il a payé cher, il a attrapé la syphilis et ça s'est terminé assez tragiquement, mais son destin pour moi n'est pas tragique en soi, parce que c'est qu'un homme qui nous intéresse encore 250 années plus tard et dont la musique arrive à nous émouvoir. Donc il est intéressant de redécouvrir cette musique. J'espère que sa musique sera jouée dans les salles de concert, et peut-être quand même on fera quelques opéras à lui. Et donc de ce point de vue, Mislivecek a réussi sa vie.
On évoquait Mozart et la rencontre avec le compositeur Mislivecek, cette scène incroyable où il est carrément subjugué par le talent de Mozart qui est au clavecin, si je me souviens bien. Comment vous l'avez trouvé, ce petit bonhomme? Parce que je le trouve assez franchouillard, comme dirait l'autre, en tant qu'acteur. Je le trouve très, très punchy.
J'ai cherché un enfant qui joue du piano. Et comme Mozart était un génie, je ne cherchais pas un joli garçon. Vous voyez, parce que tout le monde a des solutions faciles. On va dire, là, prenons celui-là, il a joué déjà dans une série. Voilà. Mais moi, non, j'ai cherché un vrai musicien. Et j'ai trouvé... Après une longue recherche, j'ai retrouvé Philippe Hahn, qui est allemand, parce que aussi pour moi, il était très important qu'il soit allemand, soit autrichien, mais pour l'accent, pour sa manière d'être, tout ça. Et aussi, comme il est, c'est un peu ce wunderkind, on voit même dans son visage quelque chose d'étrange, ce côté un peu, cette génialité un peu étrange qu'on peut, par exemple, observer chez Bill Gates. Vous voyez, c'est je cherchais non seulement un garçon qui ressemble à Mozart, mais un garçon où on lit cette étrange concentration, quelque chose d'un peu bizarre et de génial.
J'imagine également, et comme vous avez l'habitude de le faire, de vous plonger vraiment dans l'univers de vos films. Si on parle des films que vous avez traités avec La Condition des Roms, vous avez vécu avec eux. J'imagine aussi que se plonger dans le 18e siècle et retrouver toutes les archives, ça n'a pas été une chose très simple. Comment vous avez travaillé avec votre équipe pour justement retrouver tous ces codes? On en reparlera après d'ailleurs des codes.
En fait, au début, j'ai lu pendant une année à peu près, j'allais beaucoup dans les bibliothèques, surtout à Paris, et je lisais que les choses imprimées au XVIIIe siècle, parce que j'avais envie aussi de toucher ce papier, de savoir que c'était vraiment vrai, que c'était pas théorique. Mmh. Et quand vous, ça a l'air bête, vous pouvez aussi lire quelque chose sur le PDF, mais quand vous êtes vraiment dans les archives et vous touchez ces documents, ça vous donne quand même quelque chose assez ça vous donne la force, en fait. Vous avez l'impression que vous êtes en train de communiquer avec cette époque. C'est matériel. Ensuite, j'ai lu tout ce que je pouvais. J'ai lu toutes les correspondances existantes, les récits de voyage, etc. Bien sûr, il y a Casanova, l'histoire de ma vie. Absolument, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui vous explique le 18e siècle. Bien sûr, j'ai lu Rousseau parce que je m'intéressais aussi à des récits des hommes qui, en fait, qui se sont, grâce aux femmes aussi, ils sont arrivés à s'extraire de leurs conditions sociales. Après, pour étudier un compositeur, ce qui n'est pas une chose aisée, parce que souvent les documents manquent. Pour moi, la Bible, c'était la correspondance de Mozart, parce qu'à chaque fois, quand soit Wolfgang voyage avec sa mère ou avec son père, leur vie est documentée, disons, jour par jour, parce qu'ils s'écrivent énormément. Et dans cette correspondance, qui est vraiment un très gros livre, vous trouverez non seulement, vous découvrez non seulement les Mozart, mais aussi leur époque, les manières de voyager, le monde de musique, ce que c'était, comment un compositeur en fait vivait. Donc ça, c'était pour moi une source très importante. Même pour des petits détails, il y a une scène où Miss Livecek, dans le film, explique quelque chose à une cantatrice quand il coupe le melon et lui, la pastèque, et lui explique que lui, il vient du Nord et il ne savait pas qu'un truc aussi dur, aussi vert, puisse contenir une pulpe aussi rouge, aussi sucrée, etc. En fait, ça, c'est un détail que j'ai retrouvé dans une lettre de Léopold Mozart, qui décrit comme ça le fruit à sa femme. Ils disent, oui, ici, ils appellent ça anguria. Il est absolument étonné. Et je me suis dit donc que de la même manière, Miss Livecek, il devait ne pas connaître la pastèque. Et il aurait, lui aussi, il devait avoir le même étonnement que Léopold Mozart. Donc c'est pour ça que j'ai introduit cet élément dans le film. Ou alors j'ai des scènes avec Ferdinand, le roi de Naples. On le voit dans une scène assez un peu sardonique, comique, avec Miss Livecek. Et cette scène, en fait, est tirée d'une lettre de Joseph II, l'empereur, qui avait donc deux sœurs. Il y avait plusieurs sœurs, mais nous nous intéressons à Marie-Antoinette et Maria Carolina, qui est devenue la reine de Naples, qui a épousé Ferdinand. Et donc, quand il a, donc le frère Joseph II, quand il va la voir, il découvre ce personnage de Ferdinand absolument absurde. Et il décrit cette scène, comment le roi l'approche. Et autour, il a des courtisans, etc., des serviteurs, etc. Donc moi, je me suis dit que clairement, Miss Livecek pouvait faire partie de ces personnes-là et que cette histoire de peau de chambre pouvait arriver à lui-même. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'affabulation dans le film, mais j'ai toujours pris tous ces éléments dans les récits historiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est moi, j'ai lu, si on revient à des sources que j'ai consultées, il y a le voyage d'Italie de Marquis de Sade, qui décrit Naples et le roi à l'époque. Il y a les récits de Vivant de Non, qui plus tard ira avec Napoléon en Égypte et qui sera le premier, je crois, directeur du Louvre. J'ai consulté vraiment énormément de sources. Ensuite, quand j'ai consulté toute cette littérature ancienne, j'allais un peu consulter les choses contemporaines, parce qu'aujourd'hui, on a un grand savoir sur cette époque-là. Même, par exemple, les éditions de l'École française de Rome contiennent des trésors incroyables, des livres récents. J'ai aussi consulté Mélanie Traversier, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Gouverner l'opéra » et qui en fait explique comment les Bourbons organisaient le spectacle à Naples. Et j'ai travaillé avec un musicologue américain, Daniel Freeman, qui lui-même a écrit deux livres sur Miss Livecek. Lui aussi, il était au début de cette recherche, en quelque sorte, où il voulait encore l'approfondir. Václav Lux, qui est le chef d'orchestre, qui a enregistré la musique avec moi, lui aussi au début, quand on a commencé à nous intéresser à Misiewicz, il ne connaissait pas bien sa musique, parce que sa musique était toujours très mal enregistrée. Donc personne ne savait qui vraiment était Misiewicz en tant que compositeur. Et donc, comme ça, j'ai réuni autour de moi plusieurs personnes qui existaient sur la planète et qui s'intéressaient à Misiewicz. Et tous ensemble, on a fait en fait ce voyage vers lui, et tous nos savoirs se sont manifestés dans le film.
Nella sfortuna a volte si è fortuna. Scriverete per la Gabriella.
Morta mi volete!
Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io. Scriverà le mie prossime opere.
Siete in pericolo, amico mio.
Sie sind ein gebildeter Ehrenhafter. So können es doch nicht leben.
Ma questi cambiano in Europa. Più sentimenti, più interiorità. Questo vuole il nostro presente.
Avete un gran talento.
Non potete rompere così la nostra amicizia.
Mi sono ingannato sul mio destino.
Come maestro, sono finito.
Parler des codes de l'époque, et c'est vrai que bon, on évoquait le Marquis de Sade. C'est vrai qu'il y a pas mal de scènes aussi où on voit une certaine forme de luxure qui était présente à l'époque, des espèces de soirées un petit peu bizarres. Et puis il y a aussi ces masques. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de ces masques qu'il porte souvent la nuit et en public? Est-ce que c'est un code social? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça?
En fait, en Italie, le masque était très utilisé, surtout à Venise. Et on le portait pour l'époque du carnaval, donc c'est-à-dire à partir de Noël jusqu'à la veille des Pâques, où ensuite il fallait les retirer, les masques. Mais comme les Vénitiens adoraient le masque, ils avaient aussi la fête de Fiera qui tenait lieu, je crois, mai-juin. Donc même si cette contrition... catholique, Golgotha, crucifixion du Christ, voilà, toute cette époque des Pâques était certainement vécue avec beaucoup de force. Après, tout de suite, il pouvait repartir en fait. Et c'était une époque assez intéressante parce que déjà on dit Madame la Madame, parce que masque era nom féminin, donc ils disent Madame la masque. Donc vous, si vous êtes un monsieur qui porte le masque, la masque, vous êtes signora maschera. Et donc il y avait toujours ce jeu avec l'identité sexuelle des gens. Bien sûr que ça devait être assez éblouissant de se cacher, de ne pas se faire reconnaître, de ne pas savoir à qui on a affaire, etc. Et sur ce plan, je pense que c'était une époque assez intéressante et assez joueuse.
Et puis, bien évidemment, les personnages féminins qui ont toujours une force, quelque part, dans vos films, on le sent de toute façon, mais qui ont aussi quand même leur faiblesse, soit d'être mal mariée, soit de tomber amoureuse de quelqu'un voilà, il n'y aura pas d'avenir. Je trouve qu'ils ont une force particulière, tous ces personnages féminins dans votre film.
Oui, parce que malgré toute affabulation qu'un film de fiction doit apporter, j'ai toujours voulu regarder tous mes personnages historiques à travers la grille, disons, sociologique. Donc, pour Misiewicz, je me suis posé la question, qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il pouvait à cette époque? Qu'était un compositeur, un musicien? Et si vous vraiment l'étudiez sur le plan sociologique, vous ne pouvez pas trop déraper, parce que vous savez quels sont les doux, jusqu'où la personne peut aller, quelles sont les attentes de la société, quelles sont les formes d'asservissement de la personne. Et pareil pour les femmes. Et l'asservissement des femmes, c'est un sujet qui bien entendu m'intéressait beaucoup. Donc la condition des femmes, c'est une chose, voilà, qu'il faut étudier. Et donc toutes ces femmes que lui il va rencontrer, parce qu'il va faire sa vie aussi avec et à travers les femmes. Déjà parce qu'à l'époque, un homme qui ne faisait pas la carrière à travers les militaires ou à travers l'église, bien entendu, il était souvent se passé par les rencontres avec les femmes. Mais aussi, c'est un être passionné qui aimait les femmes et qui, lui, ne pouvait pas marier épouser une noble. Lui, c'était un domestique, donc il devait avoir aussi beaucoup de frustration, parce que certainement, un homme comme Slivecek, un compositeur, travaille pour la noblesse, donc il les rencontre, il va chez eux, il y a même des airs d'amitié entre eux, mais il ne pourra pas épouser une femme noble, c'est impossible. Donc, vous voyez la frustration. En même temps, il ne veut plus vivre avec une femme appartenant à son milieu dont il s'est extrait. Et je pense qu'un homme qui compose pour l'opéra, c'est-à-dire il ne fait pas seulement la musique, mais il prend le texte, il coupe certaines choses, il rajoute même parfois certains vers, etc. C'est quand même un travail d'intellectuel. Donc imaginez-vous, bien sûr, comme dans le film, certainement, il ira au lit avec plaisir, avec une belle femme, il est très... Mais est-ce qu'il voudra vivre et épouser une femme? Il est très... Ces gens-là vivaient vraiment dans des conditions très, très contraignantes. Et lui, malgré toute sa verve avec laquelle il cherchait sa liberté, il était contraint à vivre une vie qu'il ne voulait pas forcément avoir. La liberté n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour les femmes, c'était 10 fois plus vrai. Et j'ai voulu montrer tous ces types de typologies de femmes et de leurs problèmes à travers ce film.
Il y a une phrase également que l'un des personnages féminins, j'ai oublié si c'est la cantatrice ou la dame qui habite Naples, qui lui dit à un moment donné, vous savez, le meilleur peut conduire au pire. Et je trouve que c'est une phrase très révélatrice dans ce film.
Et pourquoi ?
Alors, parce que je pense que finalement, il a voulu le meilleur, et vu ce qui lui arrive, bon, on ne va pas dévoiler non plus, j'ai l'impression que il est tombé en décrépitude.
Le film, elle est plutôt ironique, parce que c'est en fait juste un impresario qui ne veut pas faire ce que cherche le compositeur. Le compositeur, lui, tu vas faire ça et ça, et lui, il répond, voilà, je vais le faire, mais je ne veux pas le faire. Mais ça peut, vous cherchez le mieux, et ça peut devenir pire. Mais... disons que oui, ce que vous avez senti derrière cette phrase, c'est le fait que je suis en train de raconter une histoire icarienne de quelqu'un qui va vers le soleil, qui se brûle les ailes et qui tombe. Mais je pense que toutes les vies liées avec l'ambition, quelque part, mènent souvent à la chute parce que la vie est comme ça.
C'est une bonne synthèse. Et puis, ces chanteurs d'opéra, j'imagine aussi que ça a été un travail très particulier, parce que on se demande, quand on voit le film, est-ce que ce sont de vrais chanteurs d'opéra qui jouent live, ou est-ce que c'est du playback, ou vraiment il y a un travail, je trouve, qui est très intéressant, puisque l'opéra, finalement, quand on le filme, on a l'impression qu'on est sur un concert, en fait, tout simplement, et non plus dans un film. On a l'impression de voir un film, mais en même temps aussi de voir un opéra. Comment vous avez travaillé avec tous ces acteurs ou non-acteurs, éventuellement?
Déjà, avez-vous reconnu Philippe Jarowski?
Alors, pas du tout.
Oui, parce qu'avec le costume et le maquillage, il n'est pas aisé de le reconnaître. Donc moi, j'ai voulu faire vraiment rendre justice à Slivecek et enregistrer cette musique de la plus belle manière. Ça veut dire qu'il faut les meilleurs chanteuses et chanteurs. Parce que ce qui est arrivé, par exemple, dans les années 80, on a enregistré quelques opéras de Slivecek, mais c'est atroce. Vous posez la question si Slivecek n'est pas un mauvais compositeur. Parce que lui, il a composé par les plus grandes voix de son temps, que ce soit des sopranos comme la Gabrielli, ou que ce soit des castrats comme Marchesi, ou les ténors comme Raff, qu'on connaît surtout grâce à Mozart, qui était son ami. Alors, du coup, on a pris les meilleurs chanteurs possibles et on a enregistré le film live, c'est-à-dire il n'y a pas de playback, parce que je voulais justement saisir cette incroyable concentration et cette force, et aussi ce stress avec lequel les chanteuses et les chanteurs chantent. Donc tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment enregistré live. Pas de playback. à part la partie de la Gabrielli, qui est jouée donc par Barbara Ronchi, une très très bonne actrice romaine. Et là, j'avais peur parce que je me suis posé la question à quel point pourrais-je vraiment rendre juste la musique avec une actrice. Elle a beaucoup travaillé. Elle avait les enregistrements qui servaient pour le playback, mais j'ai aussi enregistré la chanteuse de très près pendant les enregistrements du playback. Donc elle voyait son visage, elle apprenait. Je pense qu'elle a beaucoup consulté aussi sur YouTube la manière dont chantent les acteurs. Elle prenait les cours, elle était aussi cornaquée par Raffaella Milanese, qui est une très grande chanteuse italienne et qui chante dans le film et qui nous aidait avec Barbara à nous préparer pour ces scènes. Donc Barbara, elle a vraiment réussi à faire un lip sync qui est juste génial, et vraiment personne ne reconnaît que ce soit que c'est en fait un playback.
Ouais, et c'est bluffant même d'ailleurs. Et puis cette poésie évidemment conjuguée à la musique hein, de ce compositeur hein, qui même si au niveau des textes, bon, c'est plus la même époque, donc on se perd un peu éventuellement dans la compréhension, mais on sent que c'est quand même quelqu'un qui s'inspire énormément de sa vie personnelle pour composer, et il s'en sert justement pour arriver musicalement à trouver les mélodies qu'il faut pour apposer sa poésie.
Oui, parce qu'il y a quelque chose, un charme qui se produit, que cette musique, elle est très accessible. C'est une très belle musique, mais ce n'est pas... C'est une musique qui fonctionne. Moi, j'ai constaté avec beaucoup de gens, même avec des gens qui n'aiment pas forcément l'opéra, qui connaissent pas l'opéra, parce que tout simplement, à l'époque, l'opéra était vraiment un spectacle populaire. Bien sûr qu'il était conçu pour éclairer de la plus belle lumière la majesté royale, etc., le régime, etc., mais en même temps c'était vraiment la réunion depuis le roi jusqu'aux dernières servantes qui allaient au parterre à l'époque et qui se réunissaient autour de ces fêtes, autour de ces spectacles. Donc dans cette musique il y a quelque chose de très accessible, et on a tort de penser que l'opéra devrait être un truc snob ou pour les happy few. Vraiment, si on s'y prend bien, l'opéra est magnifique.
Ben merci beaucoup, Petre, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, ben, peut-être un dernier mot à dire aux auditrices et aux auditeurs pour leur dire allez voir mon film. Ce serait lequel ?
Ben déjà, si c'est toujours désagréable de devoir convaincre les gens à ce qu'ils aillent voir votre film, je dirais que le film raconte le destin d'un homme qui, à mon avis, correspond avec beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui. Ce n'est pas un truc tellement éloigné. Le XVIIIe siècle, c'était déjà le monde moderne. C'est le moment en fait où vraiment il y a fonctionne le star system comme aujourd'hui. L'opéra, en fait, c'était un monde qui aujourd'hui on peut le peut-être comparer avec le monde de grand cinéma américain, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont, à mon avis, déjà redécouvrir un compositeur, c'est pas mal, parce que moi, plus j'ai redécouvert non seulement Józef Mistybecek, mais aussi Traetta, Galuppi, toute cette musique qu'on appelle la musique pré-mozartienne, ce qui est une bêtise, toute cette musique contemporaine à Mozart, d'autant plus j'aime bien écouter Mozart. D'autant plus, je vois beaucoup de richesse dans sa musique à lui, parce qu'il n'a plus le monopole et parce que je suis capable d'embrasser cette période avec un regard nouveau. Donc déjà ça c'est pas mal. Et après je pense que c'est quand même un film qui n'est pas pédagogique, qui nous enseigne pas ce que c'était le XVIIIe siècle. C'est une histoire à travers laquelle on se retrouve également au XVIIIe siècle, mais c'est avant tout l'histoire d'un désir d'un homme qui veut faire quelque chose, qui veut devenir quelqu'un, et qui à travers la musique devient compositeur. Et quand il est malade, au moins il arrive à sublimer. Il sauve ce qu'il peut à travers la musique, et à la fin il est tellement malade qu'il devient la musique et il se transforme en quelque chose en musique, et cette musique elle nous reste, et nous pouvons en faire ce que nous voulons aujourd'hui, et nous pouvons toujours s'intéresser à cette musique même si l'homme est mort.
D'ailleurs, la bande originale du film, j'imagine qu'on va pouvoir la trouver.
Oui, c'est Warner Classic qui va sortir l'année prochaine toute la musique qu'on a enregistrée pour le film. Et il y aura vraiment des musiques qu'on n'a jamais entendues depuis la mort de Miss Livecek.
Merci beaucoup, Petr.
Wolfgang, basta. Non buttarti sul signor Miss Livecek in questo modo.
C'était un entretien avec Petr Vaclav, réalisateur du film italo-tchèque Il Bohemo, proposé dans la compétition européenne lors de la 23e édition du Arras Film Festival organisé par l'association Plan Séquence et qui a été primé par le jury de la presse.